commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur l'Ukraine, les suites de la guerre d'Ukraine, avec un certain nombre d'éléments nouveaux que nous allons passer en revue avec le concours de Gilles Andréani. Bonjour Gilles Andréani.
Bonjour Jean-Marie.
Vous enseignez à Sciences Po, vous avez participé pas mal de temps au Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, donc vous connaissez bien les questions stratégiques et militaires, puisque au titre de la Cour des comptes d'ailleurs, vous aviez contrôlé l'application de la dernière des lois de programmation militaire. Donc nous allons essayer d'éclairer quelques points de l'actualité sur cette guerre. Le premier point que je voudrais évoquer, c'est sur le rapport des forces tel qu'on peut le mesurer aujourd'hui, avec comme appui la plus récente des déclarations du chef d'état-major des armées américaines, qui consiste à dire, d'une part, il est impossible que la Russie gagne cette guerre, mais d'autre part, il est peu probable que l'Ukraine réussisse à récupérer l'ensemble de ces territoires qui ont été conquis par la Russie. Donc, est-ce que cela vous paraît une vue juste? Si c'était le cas, est-ce que ça n'est pas la promesse d'une guerre, à nouveau d'une guerre très longue, Gilles Andréani?
Oui, je crois que c'est un diagnostic qui est incontournable et qui est parfaitement étayé par ce qu'on a vu du déroulement des combats en Ukraine. Il n'y a pas de solution militaire à cette affaire. Les objectifs de Vladimir Poutine sont hors de portée de l'armée russe. Quant à reconquérir l'intégralité des territoires perdus par l'Ukraine, ça semble également très difficilement concevable et susceptible d'ailleurs de provoquer une réaction, une escalade russe imprévisible et peut-être très très dangereuse d'ailleurs aux portes de Sébastopol. Nul ne sait ce que ferait Poutine. Donc je crois que c'est un diagnostic juste et qui promet, si vous voulez, une alternative qui est une espèce de conflit non résolu au cœur de l'Europe qui pourrait durer un peu sur le modèle du Cachemire pendant des décennies en réalité, sauf changement de régime à Moscou, etc. Enfin, on n'en est pas là. Ou bien, mais les chances en sont infiniment réduites, une prise de conscience par le principal responsable de ce conflit, c'est Vladimir Poutine, que voilà, il faut arrêter, prendre ses pertes, négocier, essayer de trouver une issue à ce conflit. Mais rien n'indique qu'il soit accessible à ce type de raisonnement. Pour l'instant, tous les signes vont dans le sens contraire, malheureusement.
Jean-Claude ?
Oui, non, je suis de l'avis de Gilles Andréani. Au fond, Poutine voulait prendre la totalité de l'Ukraine et il n'a pas réussi et il ne sait plus très bien quoi faire. Et la logique, c'est que l'offensive, c'est toujours beaucoup plus difficile que la défensive. Il faut, je crois, avoir à peu près 3 fois plus de force et une capacité de pénétration dont nous ne savons pas si les Ukrainiens l'ont, mais c'est, comme disent les Américains, peu probable. Et les Russes sont dans une position difficile, défensive, donc ils peuvent durer. Alors, il reste une vulnérabilité intérieure, c'est-à-dire, malgré tout, Poutine s'est lancé dans une aventure qui, à l'intérieur du système russe, doit mécontenter une fraction importante autour de Poutine, autour de la Russie. Mais c'est des domaines dans lesquels la prévision est quasiment impossible. Je cherchais historiquement des cas de prévision exacte sur l'évolution de la politique russe depuis 1917. Personne n'a prévu, à partir de 26, la montée de Staline. Personne n'a prévu les changements qu'il y a eu après. Et personne n'avait prévu Gorbatchev. Donc, je crois que là-dessus, nous sommes dans l'incertitude absolue.
Gilles Andréani, tout à l'heure, vous évoquiez l'escalade et les menaces d'escalade proférées assez souvent par la Russie. Le dernier en date fait suite à l'incursion de soldats de milices russes anti-Poutine sur le territoire russe. Donc promesse de réaction très forte, de, si ça se reproduit, de nouvelle escalade, avec un geste qui signifie en lui-même une escalade, me semble-t-il, c'est-à-dire le transfert d'un certain nombre d'armes nucléaires sur le territoire de la Biélorussie, c'est-à-dire susceptible de frapper par le nord l'Ukraine, avec un certain nombre d'experts qui quand même considèrent la menace comme réelle, la menace d'utilisation par la Russie d'armes nucléaires tactiques. Est-ce que cela vous paraît raisonnable de penser cela, ou est-ce que à nouveau on est dans une gesticulation, en sachant que personne n'a vraiment intérêt, pas même les Russes, d'utiliser ce type de réponse? Gilles Andréani.
Écoutez, c'est d'abord, on a parlé de nucléaire depuis le début, et Poutine en a parlé à de nombreuses reprises dès les premières semaines de la guerre. C'est un discours évidemment dangereux. Et qu'on peut pas tout à fait prendre à la légère. Il y a beaucoup d'analystes ont dit, mais c'est du bluff, etc. L'hypothèse dans laquelle Poutine pourrait recourir aux armes nucléaires, c'est une hypothèse de désespoir, en réalité. C'est une hypothèse qui correspond d'ailleurs plus ou moins à la stratégie russe. La stratégie nucléaire russe, un peu comme l'était la stratégie française du temps du général de Gaulle, hein, c'est maintenant devenu une dissuasion du faible au fort, la dissuasion russe, dit qu'en cas d'atteinte, de menace sur la survie, de l'indépendance, voire l'existence même de la Fédération de Russie, elle se réserve d'employer l'arme nucléaire en premier. Et comme je le disais tout à l'heure, qui sait ce que ferait Poutine si les Ukrainiens étaient aux portes de Sébastopol. Sébastopol, c'est deux fois Verdun pour les Russes. Je veux dire, c'est un symbole de résistance à l'Occident coalisé au XIXe siècle, à l'Allemagne nazie, une défense de fait héroïque, plus qu'un symbole. Est-ce qu'à ce moment-là, Poutine ne dirait pas, écoutez, l'autonomie, l'existence même de la Fédération de Russie sont en jeu, j'emploie l'arme nucléaire tactique. Ce n'est que dans une circonstance de ce genre qu'on pourrait l'imaginer à froid, maintenant, même après une offensive ukrainienne réussie dans le Donbass, ça serait, à mon avis, tout à fait inconcevable. Mais on peut imaginer une hypothèse extrême où, en effet, il l'emploierait pour créer un effet de sidération et que tout le monde s'arrête et qu'on discute. Je ne sais pas de quoi, d'ailleurs, mais c'est possible. C'est pas exclu. Je ne fais pas partie des gens qui l'excluent a priori.
Alors, face à cela, il y a, dans le discours d'ailleurs de Vladimir Poutine, il y a souvent cette référence au fait que la Russie serait menacée dans son existence, puisque s'il impute à l'Occident de vouloir mener cette offensive. L'Occident, c'est l'OTAN. Donc l'OTAN va bientôt se réunir dans quelques semaines à Vilnius, donc au cœur de la peur que les Européens peuvent avoir légitimement de l'expansionnisme russe. Comment regardez-vous cela? Est-ce que l'OTAN est en bon ordre? Est-ce qu'il dispose d'une capacité de dissuasion suffisante? Est-ce que les choses sont suffisamment... Est-ce que le front est suffisamment uni côté OTAN? Comment regardez-vous les choses? Et puis on évoquera bien sûr la situation propre de la France à l'intérieur de cette alliance, hein, tout à l'heure. Gilles Andréani.
Il faut rendre cette justice aux Américains, parce que c'est eux qui ont été leaders dans cette affaire. Je trouve qu'ils ont, vis-à-vis de la Russie et dans la conduite de la résistance à l'agression russe, ils ont commis un sans-faute diplomatique. Je trouve qu'ils ont adopté une attitude de grande fermeté vis-à-vis de la Russie, mais sans excès rhétorique, avec des lignes rouges, ne pas attaquer le territoire russe avec des armes ou des moyens occidentaux. Ils ont dit qu'ils étaient ouverts à la discussion, que Biden a dit que il appartenait à Poutine d'arrêter cette guerre et qu'il pouvait le faire du jour au lendemain s'il le souhaitait. Il n'y a pas de vindicte ou de rhétorique, je dirais, excessive. Donc, et ils ont réussi à organiser une coalition qui d'ailleurs va au-delà de l'OTAN, qui a comporté l'élargissement de l'OTAN à la Suède et la Finlande, revers essentiel pour les Russes, qui a présenté, disons, un degré de solidité, d'unité, y compris dans la diversification des ressources gazières et le fait de se priver des ressources gazières russes, qui, à mon avis, tout à fait remarquable. Et l'unité occidentale, de ce point de vue, est bien assurée. Alors, il y a des dissonances, ces dissonances, elles tiennent à ce que Disons, certains sont plus ukrainiens que d'autres au sein de l'Alliance. Vous avez, disons, deux camps. Vous avez un camp un peu plus enthousiaste, le camp des pays baltes, des Polonais.
Les plus exposés.
Voilà. Mais qui sont secondés par les Britanniques également. Ils sont plus engagés. Et puis un camp plus circonspect, disons, franco-allemand, italien, un peu plus modéré dans le soutien à l'Ukraine, encore qu'il soit tout à fait honorable et important. Donc ces différences vont ressortir à Vilnius autour de la question de l'élargissement de l'OTAN, probablement à l'Ukraine. On va reparler de cette perspective. Je pense que les Américains n'y céderont pas. Je pense que les Américains sont au point d'équilibre entre ces deux sensibilités. Ils n'ont pas envie que cette affaire s'éternise. Et je pense qu'ils gardent des marges de négociation vis-à-vis des Russes. Et l'une d'entre elles... C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Je pense qu'ils ne souhaitent absolument pas la précipiter. Ils souhaitent réserver cette option. On a vu qu'au début de la guerre, au moment où il y a eu un semblant de négociation entre Russes et Ukrainiens, la carte d'une neutralisation de l'Ukraine ou d'une de mécanisme de garantie qui exclurait l'appartenance à l'OTAN a été jouée. Elle faisait partie de la discussion. Je pense que les Américains voudront garder cette carte. Ils voudront pas s'enfermer dans une logique qui serait d'ailleurs dangereuse, à mon avis, et prématurée, de promesse d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, tout en manifestant un soutien maintenu à l'Ukraine. Je pense que c'est plutôt ça qui devrait se passer à Vilnius.
Même si le secrétaire général de l'OTAN lui-même a évoqué comme, au fond, une perspective presque normale, cette future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.
Oui, mais ça, c'est le communiqué de Bucarest, c'est ce malheureux communiqué de 2008, où que les Français et les Allemands aient bloqué, disons, la mise en branle d'un processus effectif d'adhésion, même à terme, de l'Ukraine à l'OTAN... on s'est consolé sur le plan rhétorique, si j'ose dire, en mettant dans le communiqué « Un jour, l'Ukraine sera membre de l'OTAN ». Et, ma foi, ces mots restent, mais ils n'ont pas de portée immédiate et je pense pas qu'ils seront opérationnalisés à Vilnius.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous parlons toujours, hélas, je devrais dire, de la guerre de l'Ukraine, de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, et nous étions avec Gilles Andréani en train de parler de l'organisation en face, c'est-à-dire l'organisation de l'Occident à travers l'OTAN et de ses perspectives éventuelles d'élargissement dans la perspective d'un sommet de l'OTAN qui aura lieu à Vilnius dans quelques semaines. Jean-Claude Casanova.
La difficulté, c'est que la politique est réduite à un homme. Je ne pense pas qu'il y ait une politique russe. Il y a un problème de Poutine. Il s'est engagé dans une opération où il a échoué et il ne peut que perdre. Donc, et quand on regarde son schéma, bien sûr, il y a le schéma impérialiste. Il regrette l'Union, il regrette l'URSS. Mais dans son dernier discours, il y a devant pour l'anniversaire à Moscou où un seul char a défilé d'ailleurs. Donc ça prouve qu'ils ont des problèmes.
L'anniversaire, c'est le 9 mai où la Russie célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Il a justifié par la phrase suivante. Il a justifié sa politique. Il a dit qu'il a été provoqué par les mondialistes et les élites occidentales qui parlent de leur caractère exceptionnel, montent les peuples les uns contre les autres et divisent les sociétés, provoquent des conflits et des révolutions sanglantes, répandent la haine, la russophobie, un nationalisme agressif et détruisent les valeurs de la famille traditionnelle qui font de l'homme un humain. Donc au fond, il a une espèce de vision messianique, si vous voulez, d'une Russie assiégée par un monde corrompu, que vraisemblablement aucun russe cultivé ne partage, si vous voulez. On voit bien ce que disent les intellectuels russes sur place ou à l'extérieur, etc. Il n'est pas évident non plus que la population russe le sente de cette façon, si vous voulez. Donc il y a quelque chose de très déroutant, parce que ça ne peut se résoudre que par le problème Poutine, c'est-à-dire comment se convertira-t-il, comment acceptera-t-il un minimum de compromis. Même la continuation lente que nous décrivons doit profondément le ronger.
Alors, Gilles Andréani.
C'est très intéressant cette citation, elle m'inspire deux commentaires. Bon, le premier, Poutine fait appel à toutes les ressources, disons, de la slavophilie et de l'exceptionnalisme russe contre l'Occident, j'allais dire, sans Dieu, rationaliste, une humanité moins authentique. Ça dure depuis le 19e siècle, cette histoire. Donc ça, c'est, ça n'est pas nouveau. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que le problème, c'est Poutine. Autrement dit, en termes clausewitziens, le centre de gravité de cette guerre, c'est Poutine. C'est de le faire changer d'avis, de l'amener à, disons, rechercher une solution dans laquelle, bien sûr, il aura à assumer qu'il n'a pas atteint ses objectifs, en gros qu'il a perdu, mais il faut, en essayant de trouver une vague porte de sortie qui dissimule un tout petit peu sa défaite, qui est réelle, enfin qui est incontestable. Est-ce qu'il est accessible à ce type de raisonnement? Je ne crois pas. Il faudrait pour cela au moins que l'offensive ukrainienne, et ça on ne sait pas si elle en sera capable, l'ébranle très profondément. Il faut l'ébranler sans le désespérer, confère les risques que je crois réels d'une espèce de réaction, je dirais, de désespoir qui pourrait nous entraîner je ne sais où. Donc il faut qu'il soit solidement ébranlé. Et donc il y a un sujet militaire, c'est d'ailleurs ce que dit le général Reilly à juste titre. Il faut que les Ukrainiens vont pas avoir une solution à 100% militaire, mais il faut qu'ils ébranlent très solidement Poutine, ça c'est vrai. Et l'autre chose que je trouve intéressante dans votre citation, qui rejoint un thème de préoccupation par rapport à la diplomatie américaine, c'est que ce discours que tient Poutine, les Chinois le tiennent en ce moment. Je trouve qu'il y a on pouvait espérer qu'il y aurait une forme de dissociation d'intérêts sino-russe, il y aurait un coin à introduire entre la Chine et la Russie. Et là, je suis frappé par la façon dont, en réaction au communiqué du G7 d'Hiroshima, les Chinois ont une développe, d'ailleurs même avant ce communiqué, il développe toute une rhétorique exactement parallèle à celle que vous avez citée. Une rhétorique sur les méfaits occidentaux, la vindicte occidentale contre la Chine et la Russie. Ils ont cité les deux pays comme également victimes de cette agressivité, de cette vindicte occidentale en réponse au communiqué d'Hiroshima du G7. On ne voit pas ces deux-là se dissocier en ce moment, et la rhétorique est convergente.
Alors, dernier point que nous allons aborder, mais il nous reste évidemment très peu de temps, Gilles Andréani, c'est comment se tient la France dans cet ensemble de l'OTAN. La France, elle est pour une défense européenne, mais en sachant, j'imagine très bien, qu'une défense européenne ne peut exister que comme un deuxième pilier à l'intérieur de l'OTAN. Et de ce point de vue-là, on a eu, il y a quelque temps déjà, une discussion au Parlement sur la future loi de programmation militaire. Comment s'inscrit ce texte, cette loi de programmation militaire, dans cette problématique OTAN, défense stratégie autonome? Est-ce que l'outil militaire français est, à vos yeux, suffisamment bien recalibré en fonction des enseignements que l'on peut tirer ou que l'on devrait tirer de la guerre en Ukraine, Gilles Andréani?
Alors, il faut rappeler que cette loi de programmation 2024-30 qui est en discussion, on fait suite à une loi qu'on avait étudiée attentivement quand j'étais en charge de ces questions à la Cour des comptes, une loi de reconstruction, de réparation des effets, des réductions drastiques d'effectifs et de moyens subis au cours des 20 ans qui s'étaient écoulés. Et cette loi...
Pierre Mauroy avait appelé les dividendes de la paix. Donc on a en effet touché les dividendes de la paix pendant quelques années pour finalement aujourd'hui constater qu'il faut revenir un peu en arrière.
Voilà. Et cette réparation nous a semblé, enfin, plutôt bien engagée, si vous voulez. Cette première loi avait été plutôt bien exécutée. Elle était prévue pour durer jusqu'en 25. Je dirais, de la loi qui est en train d'être débattue au Parlement, elle est peut-être un tout petit peu prématurée. Autrement dit, je ne suis pas sûr qu'elle ait tiré toutes les leçons de la guerre d'Ukraine. Elle a été préparée vite, avec à l'appui un document de stratégie nationale, entre guillemets, qui est très touffu, très ambitieux, beaucoup de choses, qui ne s'est pas focalisé particulièrement sur les leçons à tirer de la guerre d'Ukraine. Si on l'avait fait, Je pense que les militaires l'avaient fait, en particulier du côté de l'armée de terre. Je pense qu'ils auraient cherché à continuer ce travail de réparation pour donner ce qu'ils appellent de l'épaisseur aux forces et pour travailler sur ce qu'on a le plus supprimé, c'est-à-dire les moyens de soutien qui permettent aux forces de fonctionner comme un ensemble organisé sur le terrain dans une coalition, en fait, parce qu'on va pas intervenir seul, évidemment. Et ces moyens, c'est des choses qui vont des munitions aux moyens de franchissement des coupures, au génie, tout un ensemble de moyens qui nous permettent, enfin, de tenir notre rôle de nation leader, de nation cadre en cas de, disons, de conflit de sérieux, d'intensité importante en Europe ou ailleurs d'ailleurs. Cette priorité ressort pas clairement des choix qui ont été faits pour la loi de programmation militaire.
Jean-Claude?
Oui, c'est-à-dire que nous allons maintenant réfléchir à la sécurité européenne vis-à-vis de l'Est, d'une certaine façon, et donc de nous intégrer dans une coalition de sécurité, de défense conventionnelle. Bon, en même temps, si on réfléchit sur les 10 années qui viennent, l'Europe ne devrait pas trop s'inquiéter si elle augmente ses dépenses, si elle s'organise. Elle a la capacité, l'Ukraine le montre, elle a la capacité de résister à la Russie.
Il y a pas de... Pour la France, il se pose quand même pour la France la question de savoir si elle peut quel rôle elle joue par rapport à cela. Et bon, pour être concret, la France met en jeu se promet à ses alliés d'être capable d'organiser un corps d'armée autour d'une division française et de moyens de soutien et de commandement.
Le problème, c'est qu'on a souvent l'impression, avec la France, mais ça nous entraînerait peut-être un peu trop loin maintenant, d'être à la fois un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on est un pied dedans, objectivement, on est lié au destin de l'OTAN, et le destin de la France est lié à la capacité de l'OTAN à la défendre. Et en même temps, on voudrait être autre chose, on voudrait être autrement, on voudrait ne pas humilier la Russie, on voudrait ainsi de suite.
C'est très juste, mais surtout le problème, c'est un problème c'est un problème de circonstances, si j'ose dire. C'est-à-dire que s'il y a une chose pour laquelle l'OTAN a été faite, c'est pour faire la guerre à la Russie, si j'ose dire, et pour résister à une agression russe. Bon, nous y sommes. Et par conséquent, c'est pas du tout un moment particulièrement propice à l'émergence d'une identité européenne de défense. En même temps, ce sont les mêmes moyens qui serviront un jour à renforcer cette entité européenne et à servir l'OTAN. Et donc, il faut les développer. Et ce n'est pas le choix prioritaire qui a été fait par la LPM. Voilà, pour le dire en quelques mots, on est plus sur le spatial, l'Indo-Pacifique, le renseignement, un ensemble d'attributs de puissance mondiale qui, d'ailleurs, sont souhaitables, mais qui n'ont pas bénéficié, qui bénéficient d'un degré de priorité supérieur à ce travail, disons, de valorisation des capacités de la France au sein d'une coalition européenne et atlantique. Voilà.
Voilà, on va en rester là. Gilles Landriani, merci de vos éclairages. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po, que vous aviez été un membre éminent pour l'avoir dirigé d'ailleurs du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un très bon week-end. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.